Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Toutes nos excuses pour ce léger retard. Alors ce soir dans le débat, nous allons parler du rôle de la MINUSMA dans la gestion de la crise au Mali. La journée des Nations Unies proclamée en 1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies est célébrée tous les 24 octobre et marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Alors au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a été créée le 25 avril 2013 par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a pris le relais de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine MISMA à partir du 1er juillet 2013. Dans quelles conditions cette journée est célébrée aujourd'hui au Mali? Nos invités, Mamadou Konaté, chargé de cours à l'école de maintien de la paix à l'une Blondine Bey, professeur André Bourgeot, directeur du CNRS de Paris, Boubacar Bokoum, politologue, et Mahamadou Djouara, sociologue, au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré.
Le Grand Dialogue.
Alors ce soir, nous parlons de la journée des Nations Unies et également du bilan de la MINUSMA au Mali depuis 2013. Monsieur Mamadou Konaté, vous êtes chargé de cours à l'école de maintien de la paix. Dans quel contexte cette journée est célébrée aujourd'hui au Mali?
Dans un contexte politico-sécuritaire très fragile. Beaucoup de défis sur le plan social. À peine si nous sentons que il y a une célébration en cours d'une telle date historique des Nations Unies. Mais écoutez, nous pensons que pour participer un peu à cette volonté de cohésion internationale, politique notamment, peut-être l'État devrait faire mieux, et peut-être que le ministère des Affaires étrangères devrait organiser une sorte de porte ouverte sur les Nations Unies, pour que les populations locales puissent comprendre davantage sur cette machine-là. Comment est-ce que elle fonctionne et pourquoi elle a été créée.
D'accord.
Et par ailleurs aussi, l'AMINUSMA gagnerait aussi à profiter de telles circonstances pour mieux expliquer sa mission ici au Mali. Je pense que cette journée doit être fériée pour les Nations Unies. Oui. Donc, ça aurait pu être l'occasion de rentrer en contact avec la population locale bamakoise pour parler de sa mission, ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle entend faire.
Boubacar Bokoum, partagez-vous l'avis de M. Konaté?
Donc, je suis entièrement d'accord avec M. Konaté dans la mesure où vous comprendrez que ce soit du niveau de l'AMINUSMA et de l'État malien par rapport à cette crise, la communication elle est très médiocre. Donc du coup, vous avez souvent les populations qui disent, mais est-ce que l'AMINUSMA a même sa raison d'être là? Il y a certains moments, il y a des mouvements contre cette MINUSMA et pourtant que nous-mêmes avons demandé. Donc ça veut dire qu'en termes de communication, les gens ne se sont pas appropriés proprement cet outil. Donc je suis parfaitement en phase avec M. Konaté qui consiste à dire aujourd'hui effectivement ça aurait été une bonne chose même dans les écoles aujourd'hui, à l'école fondamentale, au lieu que certains professeurs français se plaisent à aller parler de l'Azawad dans les écoles, il serait bien peut-être qu'aujourd'hui qu'on nous dise qu'est-ce que c'est que la MINUSMA, quels sont les enjeux réels de la paix au Mali dans nos écoles.
D'accord. André Bourgeot, je rappelle, vous êtes directeur de recherche au CNRS de Paris. Et petite rectification. Alors, vous, partagez-vous ces avis par rapport à la célébration de cette journée des Nations Unies et son contexte?
Oui, globalement, je partage les points de vue qui viennent d'être exprimés. Je pense que la MINUSMA a perdu l'occasion de créer une journée portes ouvertes. Je crois que ça aurait été une initiative particulièrement heureuse qui aurait permis aussi à cette institution internationale de préciser ses feuilles de route, parce que je crois qu'il y en a eu plusieurs, et ce qui aurait permis aussi aux populations maliennes de peut-être mieux comprendre quel est le rôle de la MINUSMA, puisque, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, la MINUSMA a fait l'objet de critiques assez pertinentes et assez virulentes à son encontre. Donc, en termes de commémoration, de célébration, je pense que ça aurait été une initiative à la fois apaisée, pacifique, dans un contexte quand même de crise généralisée qui s'est particulièrement aggravée depuis 2013. Donc ça aurait été une initiative heureuse que de faire une porte ouverte comme ça, on discute avec les gens, on dit qu'est-ce que c'est que l'ONU, qu'est-ce que c'est que la MINUSMA dans le contexte actuel. C'est un peu dommage que cette initiative n'ait pas été prise.
Mamadou Diora, est-ce que vous partagez l'avis d'André Bourgeois par rapport à cette célébration de la journée des Nations Unies? Selon lui, la MINUSMA aurait dû profiter de cette journée pour mieux sensibiliser la population malienne.
Sans aucun doute, ça aurait été un acte salvateur, à la fois pour l'image que les populations ont de la MINUSMA, donc déjà pour les populations, mais également pour la MINUSMA elle-même. Mais je voudrais quand même, au passage, rappeler que la MINUSMA a mis en place toute une batterie d'activités visant à faire connaître sa mission et son rôle. Au rang de ces activités, on sait la création de la radio Mikado, qui d'ailleurs a été critiquée par certaines autorités maliennes. Mais au-delà de ça, il y a eu plusieurs programmes visant à permettre aux populations de savoir. Par exemple, il y a eu les débats, les rencontres citoyennes dans les différentes communes de Bamako, en partenariat avec la plateforme Ensemble Nous Sommes Un Peuple, donc qui étaient des assemblées publiques en plein air avec les acteurs communautaires à la base, en langue nationale, pour expliquer vraiment quels sont les démembrements de la MINUSMA, à quel fin chacune de ces démembrements est créée et comment la MINUSMA fonctionne, quelles sont les difficultés auxquelles elle est butée. En même temps, recueillir, n'est-ce pas, les griefs que les populations ont contre eux ou bien alors les attentes des populations de façon plus spécifique. Donc, c'est quand même quelques exercices assez importants que la MINUSMA a eu à faire, mais n'en demeure pas moins que cette journée aurait été une belle occasion pour davantage ouvrir les portes à la population afin de découvrir davantage la MINUSMA.
Alors, si j'ai bien compris, tout le monde ici est d'accord que la MINUSMA n'a pas une bonne image perçue par une bonne partie de la population dans le pays. Alors, pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique cette situation?
Alors, voyez-vous, la MINUSMA intervient au Mali dans un contexte extrêmement sensible. Il faut le reconnaître. La crise que nous traversons, elle est vraiment une crise très complexe. Et la MINUSMA, lorsqu'elle vient, la plupart des populations attendent d'elle, n'est-ce pas, qu'elle... quand on vient vers le sud, hein, les populations attendent que la MINUSMA souvent attaque, que la MINUSMA riposte. Souvent, le rôle qu'on attend de la MINUSMA n'est pas le sien. Parce que la MINUSMA est une force d'appui à la stabilisation du Mali. Elle ne peut pas aller au-devant et laisser l'armée malienne derrière ou les forces maliennes derrière. Donc ça, c'est une difficulté qui fait que très souvent, les gens n'apprécient pas bien le rôle et la position de la MINUSMA ou ne comprennent pas suffisamment, n'est-ce pas, cette position, cette posture de la MINUSMA. Mais au-delà de ça également, il faut dire que, il n'y a pas une très très bonne communication. Malgré les efforts fournis, il n'y a pas une très bonne communication de la MINUSMA en tant qu'institution sur ce qu'elle entreprend. Malgré tout ce qu'elle fait en termes d'appui, et moi je peux dire, des recherches que nous avons eu à faire, j'ai eu l'occasion de conduire un vaste programme de recherche sur les 10 régions du Mali pour interroger les populations. Et quand on interroge les populations, le niveau de confiance à la MINUSMA est de 97%. Le niveau d'appréciation positive de la MINUSMA est de 97% au nord du pays. Quand on vient vers le centre, ça descend un peu, et quand on vient vers le sud, ça descend un peu. Bon, mais néanmoins, de façon globale, les avis des populations face à la MINUSMA, quand on parle des populations locales à l'échelle des communes, sont favorables. Pourquoi? Parce que très souvent, ces populations bénéficient de l'appui logistique de la MINUSMA en termes de déplacement.
D'accord, nous allons parler de ces actions humanitaires, monsieur Diora. Alors, André Bourgeois, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que la population n'a pas compris le rôle de la MINUSMA, ou est-ce que c'est parce qu'elle ne l'a pas accepté, ou est-ce que c'est parce que la MINUSMA elle-même ne joue tout simplement pas son rôle?
Je crois que c'est une combinaison des trois indicateurs que vous venez de mentionner. Je crois qu'il ne faut pas avoir une approche manichéenne du rôle de la MINUSMA, mais en tout état de cause, il y a quand même un déficit important de communication. C'est pas par hasard que, à la faveur de décisions prises par cet organisme-là, il y a eu peut-être pas une levée de bouclier, mais une expression de mécontentement et qui faisait en sorte que, objectivement, ce mécontentement était justifié et que, par ailleurs, effectivement, la communication n'était pas très bonne. Ensuite, le problème est le suivant. Lorsque l'intervenant tout à l'heure faisait référence à la présence de la MINUSMA, elle est présente surtout dans les villes. seul. Mais les problèmes actuels, c'est surtout en brousse. C'est en brousse que se préparent les attentats, c'est en brousse que les groupes armés salafistes djihadistes se réfugient. C'est là qu'ils ont un impact. Alors donc se pose le problème, comment un organisme tel que la MINUSMA peut aussi se déplacer d'une manière assez régulière en brousse pour essayer d'éradiquer ce genre de problème. Donc la complexité, effectivement, elle est énorme, parce qu'il y a une distribution des rôles que le peuple malien, les populations générales ne comprennent pas très bien, entre les objectifs de Barkhane, les objectifs de la MINUSMA, les futurs objectifs du G5 Sahel, une prolifération d'organismes comme ça, tous des militaires. Donc on a un peu tendance un peu à s'y perdre. Moi-même, quand je fais une réflexion sur la présence des nombreux militaires appartenant à des institutions complètement différentes, on se dit, mais où est-ce que l'on va? Toute cette militarisation généralisée, et dont la situation actuelle, on ne voit pas tellement les résultats positifs de cette militarisation. Au contraire, on voit bien que la crise s'est généralisée, il y a extension des groupes salafistes djihadistes, il y a, bon, pour continuer sur la MINUSMA a quand même été, sauf erreur de ma part, l'objet d'attentats les plus fréquents. C'est l'armée tchadienne aussi qui a subi le plus de morts, je crois bien, au sein de la MINUSMA. C'est une des raisons pour lesquelles le président des États-Unis, M. Donald Trump, considère que le Tchad n'a pas suffisamment lutté contre le terrorisme. On s'est dit, mais où est-ce que l'on va quand on entend de tels propos?
D'accord. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Pourquoi la MINUSMA ne va pas là où les actes terrorisme sont posés dans les brousses, comme l'a signalé André Bourgeot, M. Boukoum?
D'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel on a créé la MINUSMA. À l'époque, c'était pour stabiliser. Stabiliser entre qui et qui? Les acteurs, c'était qui? C'était le mouvement de l'Azawad, en réalité séparationniste, et l'État malien. C'était là le vrai schéma de départ. À ça, s'est greffé les djihadistes et tous les désordres qui a suivi après. Donc, quand vous prenez la MINUSMA, comme M. Bourgeot l'a dit tantôt, ils sont en ville. Parce que pour eux, il faut sécuriser les institutions. Donc, ils sont dans le truc classique. Mais ils ne sont pas réellement dans la guerre. Donc, ça veut dire qu'au niveau même des Nations Unies, la compréhension réelle du conflit n'est pas là. L'État malien n'a pas su expliquer réellement de quoi est-ce que nous avons besoin. En réalité, qu'est-ce qu'il faut faire militairement? C'est d'aller en brousse. Et pour aller en brousse, ce n'est pas un Togolais qui ne comprend pas la langue vernaculaire qui va y aller. Communiquer avec qui? Parce que dans une guerre asymétrique comme la nôtre, on a besoin d'informations, de communication et d'être très proche de la population. Donc l'armée malienne se trouve être celle qui devrait être en tête de proue. Maintenant, l'accompagnement technique et tactique derrière devrait être Barkhane ou MINUSMA ou tout ce que vous voulez, mais l'appui devrait être franc. Donc là, il y a une fissure. Il y a la MINUSMA qui a tous les moyens logistiques censés aller à la sécurité. Donc c'est normal que la population...
Parlez-nous un peu du rôle de la MINUSMA même.
Non, vous savez, la MINUSMA, c'est pour stabiliser, d'après le principe de base. Donc accompagner l'État malien, et sécuriser les institutions dans les grandes villes. Donc la patrouille s'arrête à ce niveau. Ils ne font pas la guerre. C'est pourquoi vous allez voir qu'au niveau des attaques, c'est très sanglant, parce qu'ils ont des positions statiques. Alors si réellement c'était à la recherche pour aller débusquer l'ennemi, là on allait être plus agressif, et aujourd'hui Yag, on l'aurait débusqué. Mais quand vous faites des camps dans lesquels vous faites des checkpoints, vous vous arrêtez, mais vous êtes une cible fixe.
Alors vous avez dit tout de suite que c'est l'armée malienne qui devrait prendre la tête. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de prendre la tête?
Non, l'armée malienne ne peut pas prendre aujourd'hui la tête pour la simple raison que c'est une armée qui est en train de se reconstruire. Et nous ne bénéficions pas de tout l'appui logistique nécessaire. Aujourd'hui, dans une guerre comme la nôtre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'information, il faut les satellites, il faut beaucoup d'informations. Et là, on doit être suffisamment outillé. Aujourd'hui, moi, je sais que les moyens dont bénéficie aujourd'hui Barkhane, la MINUSMA et avec tout ce qu'ils ont comme arsenal aujourd'hui, c'est vrai que nos militaires, ils n'ont pas une très grande formation, peut-être académique, mais quand même sur le terrain, ils sont engagés et très courageux. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions.
Konaté, est-ce que vous êtes d'accord avec Boukoum quand il dit que l'État malien n'a pas su bien expliquer cette crise à la communauté internationale?
Je ne suis pas tellement d'accord avec cela. Parce que quand on remonte un peu à l'histoire de la création de la MINUSMA. Rappelez-vous, il y avait bien avant la MISMA. Et rappelez-vous ici que le pouvoir central malien à l'époque n'était pas très favorable à l'arrivée de l'AMINUSMA. Et là où nous avions vraiment le pouvoir. Bon, voilà, il faut suivre mon regard. C'est pas forcément la présidence, vous comprenez. Donc on n'était pas sur le plan d'autorité, on n'était pas très favorable à.
D'abord, c'est le Mali qui a demandé la venue.
Écoutez, on sait comment cela s'est passé avec la France qui est partie faire le plaidoyer et tout ça. On sait comment cela s'est passé. Et, mais en général, si vous suiviez l'opinion nationale qui était très souvent un peu orienté par les militaires de Kati, on n'était pas du tout favorable à la construction de l'AMINUSMA. On pensait que notre salut se trouvait vraiment dans les mains d'une force sous-régionale.
D'accord. Alors, pour bien comprendre, est-ce que ce sont les autorités maliennes qui ne voulaient pas de la venue de l'AMINUSMA ou la population, elle, qui ne voulait pas à tout court que l'AMINUSMA vienne?
En fait, c'est les deux.
Les deux. Mais pourquoi, alors, malgré ce refus que l'AMINUSMA puisse venir, Elle est pointe là.
Oui. Exactement. Écoutez, il y avait la pression internationale et il y avait un vrai problème de financement, mais aussi un vrai problème de renfort logistique, qui était aussi lié quelque part à la volonté politique de certains chefs d'État de la sous-région, qui étaient beaucoup plus sensibles, et je comprends ça, à des intérêts qu'ils avaient avec certains de nos partenaires. Et c'est vraiment du passé, on ne veut pas rentrer dans tous ces détails, mais les contraintes conjoncturelles de l'époque ont fait que on était obligé en quelque sorte de recevoir l'AMINUSMA. Donc depuis ce temps-là déjà, il y avait cette distanciation, ces appréhensions des populations vis-à-vis de cette force qui venait, qui n'était pas vraiment voulue. Et on les a vus depuis ce moment comme étant une imposition de l'extérieur. Donc il y avait une méfiance déjà en place. Il y avait aussi un deuxième facteur, c'est que l'espace même de déploiement de l'AMINUSMA, déploiement matériel, logistique, c'est vraiment la zone nord de notre pays. Et donc dans une zone où la plupart des populations ne se trouvent pas. La majorité des populations maliennes se trouvent dans le sud. Bien que l'espace géographique du nord est beaucoup plus grand. Ok, et donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour sécuriser les populations. L'AMINUSMA avait un mandat de protéger les populations civiles et même d'aller à l'offensive dans ces genres de situations. Donc ces actions-là se faisaient beaucoup plus naturellement dans le nord que dans le sud.
D'accord. Mamadou Diawara, avant de vous donner la parole, André Bourgeot, comment peut-on expliquer cette situation? Les autorités maliennes, la population ne voulait pas que l'AMINUSMA soit là, selon Monsieur Konaté. Tout de suite, mais pourtant elle est là depuis plusieurs années.
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas l'impression que les populations ont été consultées. C'est une décision d'ordre politique qui a été faite. Il était normal que l'État a son autonomie de décision politique, ce qui est un petit peu regrettable.
D'accord, la population n'a pas été consultée, mais les autorités elles-mêmes qui n'étaient pas également d'accord, pourtant l'AMINUSMA est là. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas le contrôle? Elles n'ont pas le contrôle, les autorités.
En tout cas, c'est une décision qui a été prise. Il y a eu un débat.
Est-ce que
aussi.
Je peux expliquer quelque chose?
C'est une décision qui a été prise au niveau du Conseil de sécurité.
Oui,
non, le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on ne peut pas recourir aux populations dans la décision qui a été prise par l'État malien et par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les populations ont été mises devant le fait accompli, d'une part. D'autre part, ça repose le problème du fonctionnement des institutions maliennes. Il est un peu quand même regrettable qu'il n'y ait pas eu de discussion au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle est composée de députés. Les députés sont des représentants du peuple. Ça aurait pu faire l'objet justement de solliciter, de débats au sein de l'Assemblée nationale avec des partis d'opposition, les partis au pouvoir, etc. Et là, on aurait eu peut-être quelque chose, un éclairage un peu différent émanant justement de cette Assemblée nationale qui fonctionne pas toujours quand il le faut. Si je prends pour exemple les accords de paix, les accords dits d'Alger, ils n'ont jamais été discutés au sein de l'Assemblée nationale. Donc il y a manifestement un déficit de fonctionnement démocratique des institutions maliennes. En conséquence, effectivement, après, chacun se fait une image de ce que sont ces institutions et ces organismes-là, et souvent, c'est souvent à côté, parce qu'effectivement, personne ne crée les conditions de l'explication et de la communication. Donc nécessairement, ça crée un malaise, ça crée de la division, et ça fait en sorte qu'on est dans la situation actuelle.
D'accord, vous voulez expliquer quelque chose?
Non, je voulais juste dire qu'à cette époque-là, en parlant de 2013. Mm-hmm. Il y avait une sorte de bicéphalisme à la tête de l'État malien et qui n'a pas toujours été heureux. Il y avait vraiment une sorte de dissonance entre les responsables de l'époque.
Mamadou Diouara, Bourgeot a insisté sur le déficit de communication. Comment peut-on expliquer qu'une organisation mondiale d'une telle ampleur qui aujourd'hui, avec toute cette expérience, c'est pas la première mission de maintien de la paix, n'arrive pas à bien communiquer? Est-ce que c'est compréhensible?
Alors, permettez-moi, avant de répondre à ça, de clarifier un certain nombre de points. Premièrement, la MINUSMA n'est pas venue ici sans l'accord du l'État du Mali. Oui, c'est vrai que la MINUSMA, avant que ça ne soit formulé sous forme de MINUSMA, quand on voulait envoyer des militaires de la CEDEAO pour sécuriser les institutions de la République, le capitaine Sanogo et ses hommes étaient défavorables à cela. Il y a eu aussi une partie de la société civile et de la classe politique qui était défavorable à cela. Mais après, il faut rappeler que c'est le président Diongouda Traoré qui a lancé un appel pour demander de venir au secours du Mali. Et appel, n'est-ce pas, qui est passé par les Nations Unies pour autoriser la France à envoyer l'opération Serval. Et ensuite, la CEDEAO a envoyé la MINUSMA. Ensuite, les Nations Unies se sont organisées pour diluer la MINUSMA dans la MINUSMA. Donc c'est effectivement à la demande de l'État du Mali que cela a été fait. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est que quand on parle du fait que la MINUSMA est dans les villes, non, c'est pas effectif. Rappelez-vous, la MINUSMA est la mission la plus meurtrière de l'histoire des Nations Unies. Donc pourquoi? Parce qu'effectivement, les hommes de la MINUSMA sont au contact des groupes djihadistes. Leur mandat ne les positionne pas en guerriers de premier front, mais ils participent à la sécurisation et ils sont au contact. D'ailleurs, ils tombent au champ de bataille. Maintenant, pour revenir à la question que vous aviez posée, pourquoi est-ce que la MINUSMA aujourd'hui n'arrive pas à bien communiquer? Bon, je pense que en tant que mission, hein, on a vu que la MINUSMA avait beaucoup d'autres difficultés. Et déjà, dans les procédures que la MINUSMA a de faire passer les projets à impact rapide, parce que c'est une mission multidimensionnelle, elle n'est pas que sécuritaire, militaro-sécuritaire, dans les procédures pour faire passer les cuivres, la MINUSMA est souvent très lente. Dans l'ensemble de sa dynamique, pour que la machine puisse vraiment commencer à tourner, ça a pris énormément de temps. Deuxième élément, c'est que le Mali est un pays difficile, parce que nous avons 13 langues officielles au Mali. On a un vaste territoire avec plusieurs groupes ethniques et plusieurs spécificités. Communiquer efficacement face à un public aussi multilinguiste et multiculturel, ce n'est pas tout à fait évident. Mais cela ne justifie pas le déficit de communication. Je pense que la MINUSMA doit faire appel davantage à de l'expertise nationale et sous-traiter davantage avec les structures de communication du Mali pour affiner sa stratégie de communication et atteindre plus efficacement la cible malienne. Et cela doit se faire avec également le concours de l'État. Et n'oubliez pas, le mandat de la MINUSMA a beaucoup évolué. La résolution 2100, qui était la première à mettre la MINUSMA en place, a été suivie par beaucoup d'autres résolutions après, à la demande du Mali, avec un fort plaidoyer auprès des Nations Unies. Donc tout ceci montre que effectivement, c'est l'État du Mali qui exprime ses besoins. La communauté internationale répond à travers la MINUSMA. Mais il y a un travail à faire pour affiner la stratégie de communication et renforcer l'efficacité de l'organisation dans l'atteinte de ses objectifs.
Konaté, vous voulez réagir?
Oui, écoutez, communiquer, c'est très important et je ne pense pas que ce soit uniquement un problème de communication. Supposons que la MINUSMA avait tous les moyens pour communiquer. Sur quoi elle va communiquer? Par exemple, au sud de notre pays, on vient de le dire, tout le monde, je pense, l'a reconnu, que la plupart de ces actions de stabilisation, de développement, sont menées dans le nord de notre pays. Donc, je pense que d'abord, le MINUSMA doit peut-être redéfinir, revoir un peu sa mission. C'est ça, l'étendre un peu à tout le Mali. Et puis, faire aussi un travail de toilettage et puis de reconstruction dans la façon de libeller son mandat, la façon même de décrire son mandat. Parce que lorsqu'on lit souvent dans les mandats que la MINUSMA va aider au redéploiement de l'armée et va empêcher le retour des éléments armés.
Justement, parlons du bilan côté positif de la MINUSMA depuis 2013. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que la MINUSMA a pu poser comme acte positif?
Écoutez, le plus grand acte et le plus spectaculaire, le plus salutaire, c'est les élections présidentielles, hein, que la MINUSMA a aidé à organiser. décoloniser notre pays. Pour moi, c'est quelque chose de très salutaire, très important. C'est peut-être même le plus grand acte qu'ils aient posé jusqu'à présent.
D'accord. Et beaucoup par rapport au bilan positif, côté positif.
Non, bon, tu sais, le bilan, il est très, très mitigé. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on avait pensé quand l'aménagement arrivait?
On va aller étape par étape. Avant de parler du bilan côté négatif, est-ce que côté positif, vous avez perçu quelque chose?
Bon, côté positif, il n'y en a pas beaucoup. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Konaté, il y a les élections qui ont été organisées. Ensuite, globalement, leur présence est là. Peut-être que ça peut dissuader, ne serait-ce que de façon visuelle, on peut avoir un semblant de sécurité virtuelle, ça peut rassurer. Mais au-delà de ça, je ne vois pas d'action réellement qui me rassure que la guerre est terminée.
Vous dites que vous n'avez pas terminé,
oui,
M. Konaté.
Je parlais de l'acte le plus important, mais il ne faut pas oublier, il n'y a pas longtemps, en 2015, aussi tout l'accompagnement, toute l'assistance et tous les bons offices qu'ils ont joués dans le processus de conclusion des accords de Bamako, du accord d'Alger. C'est important. Et il ne faut pas oublier aussi les élections de toutes les élections depuis 2013 d'ailleurs, sur le plan logistique et même sécuritaire, l'AMINUSMA a apporté énormément à l'État malien, que ce soit dans le transport de matériel électoraux, que ce soit même dans l'appui sécuritaire, physiquement, de certains bureaux de vote ou centres de vote, ou l'acheminement de certains documents électoraux.
D'accord.
Donc il y a quand même, il ne faut pas le nier, il y a des apports très positifs que l'AMINUSMA a posés.
D'accord.
C'est là où nous, les populations, nous y compris, attendons l'AMINUSMA le
négatif,
plus.
Négatif, on va parler
c'est
de ça.
C'est sur le plan sécurité.
André Bourgeot, vous, votre point de vue sur le bilan côté positif.
Globalement, je souscris à ce qui vient d'être dit, en apportant quand même une nuance. Tous les États, la communauté internationale, etc., se sont donné les moyens de faire en sorte que les élections se tiennent. Ça ne veut pas pour autant dire que des élections réussies ou partiellement réussies ont débouché sur des situations politiques où il y a eu sécurité, en aucun cas. Donc, moi, je m'interroge toujours sur le fait que les puissances extérieures, je dis bien, c'est surtout les puissances extérieures qui se donnent les moyens de dire « Ah, il faut des élections ». Je m'excuse, mais le fonctionnement d'un État ne passe pas nécessairement par le résultat des élections, d'autant que on croit savoir quand même de temps en temps que les élections se tiennent dans des conditions plus ou moins douteuses, et plutôt plus que moins. Donc c'est pas des manières de résoudre la crise, c'est-à-dire que c'est de l'affichage politique qui est instrumentalisé par les pays occidentaux en disant ben voilà, nous on a fait telle et telle chose, on a rétabli un semblant de démocratie. Je dis bien un semblant de démocratie parce que sur le fond, je vois pas où sont les pratiques démocratiques.
D'accord. On me signale que monsieur Diouara tout de suite n'est plus disponible, problème de réseau. Avant qu'il ne soit avec nous, monsieur Bokoum, vous disiez tout de suite que le bilan est mitigé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, je disais que le bilan était mitigé au-delà du fait que M. Konaté a parlé des différents aspects positifs qui consistaient à stabiliser, et je dis c'est virtuel, comme l'a dit M. Bourgeot tout tantôt, nous attendons plus que ça de l'aménagement. Aujourd'hui, au lieu qu'on nous dise... parce qu'en fait, il faut aller même à l'origine même de notre démocratie. Est-ce que ce n'est pas une démocratie qui est mal tombée et qu'on nous a même quelque part imposée et nous n'avons rien compris de ce que c'est que la démocratie? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons du mal même à appliquer cette démocratie que nous avons tant prônée. Donc, du coup, dans l'application... Oui, dans cette démocratie, nous nous disons démocrate, mais est-ce que nous avons compris même les fondamentaux de cette démocratie? En 91, quand on nous a dit que c'était une révolution, je dis très souvent que c'était plutôt une insurrection populaire qui a été récupérée par quelques opportunistes qui, après, ont porté le chapeau des démocrates. Et voilà là où ça nous amène aujourd'hui. C'est les conséquences de cette démocratie mal gérée qui nous a amené à la crise de 2012. Donc c'est la mauvaise gouvernance et tout ce qui va avec, ce sont ces fléaux qui nous ont amené à cette catastrophe. Donc il faut le comprendre. Aujourd'hui, quand nous essayons de reconstruire, ça veut dire qu'il faut reconstruire même les fondements de notre société.
D'accord. Et la MINUSMA qui est venue pour nous aider pour pouvoir stabiliser aujourd'hui, vous pensez que son bilan est mitigé?
C'est mitigé parce que la crise, fondamentalement, elle était sécuritaire. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore totalement sortis. Donc, les clés que les institutions soient stables, entre guillemets, parce que c'est les institutions. On a créé un État, l'État est là, on a fait des élections, tout est là, mais est-ce que la fonctionnalité est là? Nous avons besoin d'un État qui est fort, qui est souverain, qui peut s'afficher sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous avons du mal à assumer notre souveraineté et à gouverner comme cela se doit dans les règles démocratiques. Donc je pense que l'amunissement, c'est là où nous l'attendons, que les Occidentaux qui ont les moyens de changer les gouvernants à tour de vis puissent mettre les moyens adéquats pour nous orienter vers une porte de sortie digne de ce nom. Et ça, souvent nous sommes en porte-à-faux avec un esprit un peu nationaliste qui pose problème, parce que M. Konaté l'a dit tantôt, quand les gens refusaient, c'est parce qu'il y avait cet orgueil, cette fierté, quand bien même nous savions qu'en son temps, nous n'avions pas une armée capable de faire face, encore moins la CDAO, le Nigeria, personne ne pouvait en réalité. Donc nous avons été plombés par le système des Nations Unies qui a toute l'armada, mais qui n'a pas le concept de développement. Que c'est là où j'ai dit que nous n'avons pas bien vendu notre produit, parce que nous-mêmes en intérieur, nous n'avons pas aux yeux des grands chercheurs, je m'excuse un peu, qui nous disent qu'est-ce qu'il faut pour nos pays concrètement et dans quelle direction nous devrions exactement aller. Donc nous ne vendons pas un produit sûr. Donc nous sommes là, nous attendons, on nous impose un produit, nous prenons. Mais qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui? Si nous voulons qu'aujourd'hui les Nations Unies nous accompagnent, c'est à partir de quel produit, qu'est-ce que nous voulons, quelle orientation nous voulons. Donc à ce niveau, nous avons beaucoup de mal à définir notre objectif pour convaincre nos partenaires, pour nous accompagner. Je pense que sous le contrôle de M. Konaté, souvent on a peut-être la pression par rapport à la vision géopolitique de nos partenaires qui nous imposent certaines visions, même si cela ne nous conviendrait pas.
D'accord. Aider par rapport au retour de la paix et la réconciliation dans le pays, le retour de l'administration dans le nord du pays également, ainsi que la reconstruction de l'armée malienne, c'est une des missions de l'aménagement aujourd'hui. Quel en est le bilan?
Ça m'est difficile de faire un bilan sur la reconstruction de l'armée malienne. Il faut être vraiment spécialiste pour savoir comment elle évolue. À propos de l'armée malienne, je constate qu'elle est formée par 3 ou 4 puissances étrangères. Elle est formée par l'Algérie, par l'Allemagne, par la France, par la Suède, le Danemark, etc. Donc je me pose la question suivante, c'est est-ce que c'est à partir de formations spécifiques de pays étrangers avec une technologie et des armes qui relèvent de ces puissances étrangères, est-ce que ça contribue à restructurer une armée nationale et républicaine? Toutes ces formations renvoient aussi à ces puissances-là qui ont capacité à tisser des liens avec les gens qu'ils ont formés. Donc je me dis, mais quelle formation peut-on donner pour reconstruire une armée républicaine sur des bases nationales? Ça, c'est la première question, la première observation. La seconde observation, je crois que c'est vous qui avez parlé de souveraineté, et vous-même qui faites référence à ça. Si on prend l'exemple de Kidal est quand même un exemple particulièrement significatif et intéressant. Vous avez la coordination des mouvements de l'Azawad qui ont signé les accords de paix, qui reconnaissent l'intégrité territoriale, ils ont reconnu tout ça, ils ont fait une signature, etc. Qu'est-ce qui se passe? Kidal, c'est une enclave, c'est un statut particulier accordé à la coordination des mouvements de l'Azawad. L'administration civile malienne n'a pas le droit d'y rentrer, l'administration militaire n'a pas le droit d'y rentrer, le drapeau malien n'a pas le droit non plus d'être fonctionné. J'observe, c'est simplement un constat, que la communauté internationale incarnée par la MINUSMA, le médiateur algérien, on sait que c'est l'Algérie qui a servi de médiation, la puissance politique française incarnée par Barkhane, aucun de ces trois-là n'a pris position pour dire « ça suffit, vous respectez ». Ils ont quand même les moyens de dire, de faire respecter des signatures. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va plus dans ce pays. Les autorités maliennes, pareil, elles auraient pu aussi quand même solliciter les trois entités que je viens de mentionner pour leur dire « vous devez respecter votre signature, on vous donne à chaque fois que vous venez à Bamako 1,5 million de CFA ou 2 millions, quelque chose comme ça. Maintenant, ça suffit, respectez, et c'est ça le retour à l'intégrité territoriale sur des bases de souveraineté et d'autorité de l'État. Jusqu'à ce jour, ça ne s'est pas fait. Donc la responsabilité, elle est multiple. Pourquoi ?
Donc, il y a certains observateurs qui pensent qu'aujourd'hui, l'AMINUSMA est plus devenu un problème qu'une solution. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Bon, d'une manière générale, les propos qui sont tenus à chaque fois qu'il y a intervention de forces militaires de l'ONU, d'une manière générale, on dit que ça n'apporte pas des solutions, mais que ça crée davantage de problèmes. C'est un peu l'image qu'ils donnent. Donc, pour en revenir à la situation malienne, peut-être que cette institution est animée de bonnes intentions, mais on ne peut pas se limiter simplement à des intentions. Il faut que ces intentions se matérialisent concrètement sur des faits bien, bien précis, bien ponctuels. Et c'est à partir de là qu'on crée les conditions de la communication. Quand il y a des faits concrets, on peut expliquer les raisons pour lesquelles on prend position, en l'occurrence l'institution considérée, la MINUSMA, prend position telle et telle chose. Moi, il y a une chose qui m'a un peu surpris, mais peut-être parce que je ne connaissais pas bien la feuille de route de la MINUSMA. La MINUSMA a contribué il y a à peu près un ou deux ans à une sorte de répartition entre le Mouvement National de Libération de l'Azawad et le GATIA. Mmh, on a dit on donne au MNLA la région de Ménaka, et on donne au GATIA la région d'Anéfis. Je me suis dit, mais attends, comment on peut faire ce genre de choses-là? Parce que c'est mettre en place de nouvelles territorialités que l'on accorde à des groupes armés qui remettent, dont certains d'entre eux, en l'occurrence le Mouvement National de Libération de l'Azawad, remet en cause l'intégrité du territoire national, puisque leurs visées sont indépendantistes. Donc je dis, pourquoi procéder à de telles choses? Ensuite, dans des rapports de force politique au profit du GATIA, le GATIA occupe le Ménaka, la MINUSMA intervient et dit, ah, attention, on a dit, et vous avez signé, je crois bien, que Ménaka, c'était au MNLA, et Anéfis, c'était au GATIA. J'ai dit, mais attends, où est-ce que l'on va?
Alors, y a certains qui pensent que la MINUSMA est beaucoup plus présente dans les actions humanitaires que sécuritaires. Est-ce que cela veut dire qu'elle néglige un peu ce volet sécuritaire, selon Chokonaté?
C'est une question difficile à répondre. Est-ce qu'elle néglige voilà. Et quelque part aussi, il faut écouter la MINUSMA sur ces questions de sécurité. Je pense qu'ils sont sincères quand ils disent qu'ils n'ont pas la logistique adaptée aux actions de combat offensif que l'on attend d'eux, hein, pour cibler les terroristes, mais aussi les groupes armés qui violent incessamment l'accord de paix. Je n'ai pas été vérifié, mais bon, écoutez, j'ai quelques informations, quand même sûr que sur le plan logistique, c'est récemment qu'ils commencent à acquérir quelques matériels de ce niveau. Il était d'ailleurs prévu dans l'avant-dernier mandat que la brigade d'intervention rapide là, de la force spéciale là, de Côte d'Ivoire soit une bonne partie soit transférée au Mali avec tout le matériel qu'il faut pour créer une sorte de brigade aussi spéciale d'intervention au Mali. Malheureusement, elle n'existe pas jusqu'à ce jour. Et est-ce que c'est une négligence? Écoutez, il y a quelque part peut-être un manque de volonté politique qui va au-delà même de l'aménagement, hein, qui va plus loin. Non seulement à certains initiateurs de l'aménagement, mais aussi à ceux qui contrôlent l'aménagement, hein, de loin. La volonté politique, elle est multidimensionnelle aussi.
Justement, parlons maintenant du Conseil de sécurité qui dénonce un retard dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Alors concrètement, que fait-il pour accélérer ce processus? Monsieur Diouara, vous êtes de retour.
Oui, alors, merci beaucoup. Alors, que fait la MINUSMA, vous voulez dire? Ou bien que fait le Conseil de sécurité?
Le Conseil de sécurité, la MINUSMA représente le Conseil de sécurité et les Nations Unies.
Oui, naturellement. Mmh. OK. Alors, qu'est-ce que fait la MINUSMA et le Conseil de sécurité? D'abord, à la demande, encore une fois, de l'État du Mali, je pense que le Conseil de sécurité a décidé de prendre des sanctions contre ceux qui se révéleraient auteurs, n'est-ce pas, de blocage pour la mise en œuvre de l'accord. Donc ça, c'est déjà un point important. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que l'AMINUSMA ici participe à plus d'un titre à la mise en œuvre de l'accord. Elle est en charge de l'aménagement des sites de cantonnement et elle a aménagé beaucoup de sites de cantonnement à l'heure où nous parlons. Elle accompagne le processus de réforme du secteur de la sécurité à plus d'un titre. Elle accompagne également les réformes politiques et institutionnelles. Elle accompagne la société civile en termes de renforcement de capacités, en termes de dissémination de l'accord. Elle participe aux missions de sécurisation aujourd'hui à travers des patrouilles. On a vu à un moment donné des patrouilles avec des patrouilles mixtes entre la MINUSMA et les forces de sécurité nationale à Bamako. C'est le cas à partir de la région de Mopti pour aller vers le nord, dans les zones où l'État n'existe pas. n'est pas présent actuellement, également la MINUSMA participe. Bon, maintenant.
Alors, il nous reste plus que 4 minutes 30 secondes pour chaque invité. Vous, selon vous, aujourd'hui, quelle peut être la solution pour accélérer ce processus de paix?
Alors, ce qu'il faut pour accélérer le processus de paix, c'est très clair, c'est pas très compliqué. Le processus de paix est bloqué parce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à opérationnaliser le mécanisme opérationnel de coordination pour qu'il puisse exécuter les patrouilles.
Qui n'arrive pas à le faire?
Le reste est lié à ça. Non, c'est l'ensemble.
Qui n'arrive pas à opérationnaliser, j'y arrive, le MOC?
C'est l'ensemble des acteurs qui n'arrivent pas à opérationnaliser le MOC.
D'accord, M. Konaté, vous, le conseil, 30 secondes, désolé, le temps ne nous le permet pas, le conseil de sécurité dénonce un retard par rapport à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Qu'est-ce qui empêche le Conseil de sécurité d'appliquer les mesures de sanctions prévues?
Plus qu'un retard. Mmh. Le Conseil de sécurité a dénoncé plus qu'un retard. Mmh. C'est presque un blocage. En des termes très plats, c'est un blocage. Mmh. Voilà, diplomatique, on parle de retard grave, tout ça. C'est...
Alors, ne sait-on pas où se situe ce blocage?
Mais oui, ils l'ont situé. C'est vraiment
oui, alors, qu'est-ce qui empêche de prendre les mesures
Écoutez,
de sanctions?
Écoutez, c'est parce que c'est complexe. Moi, je suis, contrairement à ce que votre interlocuteur a dit, la solution est extrêmement compliquée.
D'accord. D'accord, merci. 30 difficile. Secondes à chaque invité. Monsieur Bokoum, votre avis par rapport à cette question?
Je pense que c'est les Nations Unies le problème. Mm. Le blocage, c'est les Nations Unies. Mm. Parce qu'en réalité, l'État malien n'a pas les moyens aujourd'hui d'organiser le MOC. Mm. Nous n'avons pas les moyens de cantonner réellement. Mm. Et c'est les Nations Unies qui ont... Mais justement, tout ça, c'est les Nations Unies qui ont les moyens. Et quand on parle de sanctions, on va sanctionner qui? Un IAG qui n'a pas de compte bancaire, on va les sanctionner comment? En gelant quoi? Il faut aller les traquer. Il faut donner les moyens.
Donc vous pensez que c'est IAD qui bloque le processus?
Non, je ne dis pas que c'est IAD. Ça veut dire que ce soit... parce qu'en réalité, on est en train de mettre l'État à un niveau très bas par rapport à des gens qui sont soit djihadistes ou à des gens qui ont des velléités séparatistes.
D'accord.
Donc il faut que ce soit un État qui soit considéré comme tel et que l'État malien ait une certaine ascendance sur ce
mouvement. Bourgeois. Voilà.
Très rapidement, l'approche institutionnelle, elle est incontournable. Et bien sûr qu'il la faut, mais je ne vois pas comment le contenu des accords de paix pourrait être appliqué s'il n'y a pas un grand mouvement populaire qui le soutient. Or, le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas de mouvement populaire qui soutienne les accords de paix. Et donc, on est dans cette situation actuelle. C'est qu'effectivement, bah, c'est des dérives systématiques et d'où la complexité des choses. Encore une fois, si la population n'intervient pas en tant que telle, je ne vois pas comment on va pouvoir appliquer des accords de paix.
D'accord, merci et bonne fête aux Nations Unies. Et c'est ce qui met fin à cette édition réalisée par Moumine Sendebou à la mise en onde de Félix Dambélé, Seydoumbo, régie vidéo assurée par Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré à la présentation. Nos invités étaient Mamadou Konaté, chargé de cours à l'école de maintien de la paix, professeur André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS de Paris, Boubacar Bokoum, politologue, et Mahamadou Djouara, sociologue. Nous nous retrouverons demain pour un prochain numéro. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.